Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut tout le monde! Alors, cette semaine, c'est officiel, c'est notre dernière émission de l'été qui sera à la radio, parce qu'on va probablement vous revenir au courant de l'été en version balado.
On va garder quelques surprises.
On va se garder quelques surprises. J'ai déjà quelques pilotes automobiles que j'ai contactés qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, qui vont probablement être là plus tard cet été. Andrew Ranger, Marc-Antoine Camiran, qui vont nous parler de leur saison en NASCAR. Donc, on a ces gens-là qui sont déjà prévus. Alain, évidemment, t'es d'ici, ta tasse de tech, toi, va rouler tout l'été?
Oui, on fait de la balado techno. Je suis toujours chez Cogeco, donc ça va continuer de ce côté-là. On pourra.
Bon, alors, on va peut-être vous faire quelques émissions spéciales. Donc, on vous promet de vous tenir au courant et on sera là pour vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir quelqu'un d'extrêmement intéressant, Normand Mousseau, qui est au Polytechnique Montréal, qui a écrit plusieurs livres sur le pétrole, sur l'énergie en général. Mm-hmm. C'est son dada. Et aujourd'hui, on parlait essence, parce qu'on le sait, là, les prix stagnent. On est à 2,20. Bon, dépendamment où vous êtes, là, c'est entre 2,12 et 2,22 et 23. Est-ce qu'on s'en va vers une hausse? Est-ce que ça va se plafonner? Est-ce que ça va baisser? Tout le monde se pose la question. Même nous, les journalistes automobiles, qui roulons 2-3 autos par semaine.
Oui, ben là, ça...
On commence à trouver que la facture coûte cher, mesdames, messieurs. Alors, donc, on a ça aussi au programme. On va avoir... Alain, t'as roulé quoi, toi, cette semaine?
Ben, parlant de voitures qui carburent à l'essence, j'avais une Volkswagen GTI qui est, en tout cas, la plus récente génération et peut-être même la dernière de ce modèle-là à essence.
Beaucoup le disent, parce qu'on dit s'il y a une suite, ça va peut-être être une suite électrique ou en tout cas avec une électrification quelque part.
Pour avoir essayé plusieurs générations de ce modèle-là, je me questionne sur est-ce que c'est une bonne façon de quitter le plancher.
On va revenir là-dessus. Moi, j'étais sans essence la semaine dernière. J'ai roulé le BMW iX.
Oui.
Fort intéressant, mais pas donné. Hein? C'est pas quelque chose de nécessairement abordable, mais très satisfait de mon essai par contre. Donc, on va vous parler de ça en fin d'émission. Puis évidemment, on commence toujours l'émission avec nos manchettes de la semaine. Alain, je te laisse l'honneur.
Ben écoute, on en sait enfin, je devrais dire enfin, ça dépend comment vous vous tenez par rapport à ça, mais on en sait un peu plus à propos d'Apple CarPlay 3.0. On en a parlé un petit peu la semaine dernière brièvement, là, mais la semaine dernière, évidemment, Apple avait beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec l'automobile à annoncer. Parce que c'est leur espèce de conférence aux développeurs. Bon, puis ils parlaient évidemment pas aussi de l'informatique, on s'entend.
Exact.
C'était plus tranquille cette semaine. Alors, on a pris un peu plus de temps pour en discuter avec eux en détail là, de CarPlay. Vous savez que CarPlay est évidemment l'espèce d'interface qu'apparaît à l'écran de sa console centrale dans sa voiture quand on branche son iPhone. La première version de ça est sortie en 2014, ça fait quand même un petit bout de temps. Il y a eu une mise à jour il y a à peu près 2 ans pour ce qu'on appelle ça CarPlay 2.0 qui offrait de façon plus élargie CarPlay sans fil, donc on a revu l'interface. Et on a aussi offert cette disponibilité-là de l'interface sans qu'on ait à se brancher par USB, ce qui a fait l'affaire de bien des gens. Et là, on arrive avec CarPlay 3.0, qui est une version plus immersive là, de cette interface-là, qui, en plus de prendre en charge l'affichage de l'écran du système multimédia de la voiture, va aussi être présente derrière le volant où on trouve généralement tout le temps, l'indicateur de vitesse, le niveau de carburant, le niveau de charge sur une voiture électrique, ainsi de suite.
Donc, on est en train de prendre en charge toute l'électronique du véhicule.
C'est ça l'affaire, c'est que c'est une fine ligne entre prendre en charge l'électronique puis juste afficher des couleurs. C'est là où ça se situe. L'utilisateur, évidemment, va pouvoir personnaliser l'affichage pour que les cadrans s'agencent. Il y a différents thèmes de couleurs d'affichage.
Okay.
Un peu comme, je veux dire, c'est un peu weird comme parallèle, mais comme l'Apple Watch qu'on peut avoir, tu sais, un cadran analogique, numérique. Avec différents widgets, donc des éléments d'information qui viennent tirer des applications du iPhone et qui vont s'afficher sur l'écran devant lui. Par exemple, on le voit déjà avec les applications embarquées des véhicules actuels. La navigation routière va être présentée entre les cadrans de vitesse et de régime moteur, des choses comme ça. L'information musicale, d'autres données qui vont provenir de différentes applications. On va aussi pouvoir choisir parmi des données qui viennent de la voiture. Et c'est là où c'est justement un peu plus confus, parce qu'Apple dit qu'aucune donnée provenant des ordinateurs de bord du véhicule n'est récupérée par l'iPhone puis transmise à des serveurs. Donc, on joue la carte de l'espèce de confidentialité malgré tout.
Ouais, mais tu sais, Facebook nous a promis ça. Il y a plein de monde qui nous ont promis ça, puis on réalise que finalement, c'est pas vrai.
Il faut garder effectivement un certain œil critique là-dessus, mais Apple joue la carte de la sécurité depuis longtemps, donc on peut avoir, je vais dire, une petite affaire plus confiance, parce que leur modèle, c'est pas de vendre la pub par rapport à ça ou quoi que ce soit.
Non, effectivement.
Et Apple le garantit sur papier. Tout ce qui se passe dans CarPlay reste dans CarPlay. Ça demeure privé et confidentiel. Puis en fait, c'est un peu ça l'affaire, c'est que CarPlay habille les données fournies par l'ordinateur de bord du véhicule, mais ne les récupère pas. Ça va jusqu'à la température du moteur, l'état de la climatisation. Le système fait la même chose avec les menus qu'on trouve normalement à l'écran du système multimédia. On va pouvoir accéder, par exemple, au réglage du véhicule, que ce soit pour ajouter le son, l'égalisateur musical ou la fermeté de la suspension, et ainsi de suite, sans sortir de l'environnement. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'il faut faire, c'est que si on va aller dans les réglages du véhicule et qu'on a soit Android Auto ou CarPlay sur l'écran, faut sortir de cet environnement.
Oui, exactement.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben non, mais restons dans l'environnement, ça va être plus simple.
Donc, ça va probablement être la compagnie qui va accorder le droit à Apple une licence de d'aller dans les paramètres automobiles, mais ça sera pas une propriété d'Apple. Ça
non,
va
exact,
être comme une
ça.
Entente. C'est ben ça,
c'est,
je comprends.
C'est vraiment au niveau de la présentation graphique du contenu qui reste dans le véhicule.
Puis on s'entend, si t'as pas à sortir de l'environnement, c'est beaucoup plus simple.
Ben oui, c'est plus naturel. Puis on le sait, puis c'est un peu ça, à mon avis, la principale raison pour laquelle Apple et Google ont une entrée dans ce créneau-là, c'est que les constructeurs sont extrêmement mauvais à créer des interfaces logicielles.
Qui dis-tu?
Ben non, mais à chaque semaine, c'est comme un refrain. À la limite, on pourrait le chanter tellement que c'est récurrent. Mais évidemment, ça ouvre tout grand la porte à Apple et Google. Et dans le cas d'Apple, clairement, on a décidé d'entrer un peu plus profond, un peu plus à fond dans la voiture avec CarPlay.
Puis là, évidemment, tu sais, on s'entend, là, tout le monde a un téléphone Android ou Apple. On sait par cœur comment fonctionnent ces systèmes-là. Donc, on va rapidement être en pays de connaissance quand on va arriver avec ça d'un auto.
Puis, on n'a pas payé une deuxième connexion cellulaire qui coûte une fortune.
Voilà.
Parce qu'on le sait, ça coûte cher. Ça s'en vient juste pour conclure là-dessus. À l'automne 2023, les premiers véhicules compatibles vont être sur la route.
OK. Autre nouvelle.
C'est une surprise, Benoît. Toute une surprise.
Ta-ta-da!
Saviez-vous que les gens réservent plus de pick-up électriques en précommande qu'ils prévoient en acheter?
J'ai lu ça et j'ai pas été surpris parce que depuis plusieurs mois, on le sait, Alain, là, les gens attendent en 2 et 3 ans pour un auto. Mm-hmm. Fait que là, les gens font quoi? Ils se mettent sur 6-7 listes d'attente puis ils disent, bon, ben, le premier qui va m'appeler m'a prendre celui-là.
Exactement.
Et là, on fait la même chose avec les camions électriques. Fait que quand on vous annonce qu'il y a 30 ou 40 000 précommandes, en fait, dans les faits, il y en a peut-être 10 000 parce qu'il y en a 20 000 qui sont sur 5 autres listes d'attente.
Exactement.
Qui attendent le véhicule.
Puis, on peut le présumer parce que c'est un peu prévisible, mais il y a une étude qui le confirme, elle a été parue au début de la semaine dernière, effectuée par une firme d'analyse spécialisée dans les batteries électriques qui s'appelle Recurrent.
Oui,
en tout cas, c'est un jeu de mots en anglais, je vous l'explique parce que c'est long. Ouais. C'est ça. Donc, le Recurrent, justement, a sondé là, quelques centaines d'internautes qui ont admis avoir réservé un véhicule électrique entre avril et mai dernier. Et elle a justement découvert que les gens qui magasinaient pour une camionnette électrique en particulier avaient tendance à sur-réserver, donc à inscrire leur nom à laisser un dépôt de quelques centaines de dollars à plus d'un endroit. Les dépôts sont remboursables, donc il n'y a pas vraiment de risque. Et évidemment, la plupart, la raison pour laquelle les gens font ça, c'est qu'ils s'inquiètent de ne pas recevoir le véhicule souhaité assez rapidement, parce que comme tu l'as dit, attendre 2 ans, c'est long quand on veut un véhicule.
C'est clair.
Dans le sondage en question, là, on a vu que 89% des gens qui ont précommandé un Cybertruck de Tesla disent avoir aussi précommandé un véhicule d'une autre marque. On ne sait pas. T'sais, les ventes concorderont peut-être pas avec les chiffres de précommande avancés. C'est encore plus prononcé du côté du F-150 Lightning et du Silverado EV là, de Ford et de Chevrolet, respectivement. Puisque dans les deux cas, ce sont 100% des personnes qui ont précommandé plus qu'un véhicule.
Moi, j'ai vu ça cette semaine. C'est la première fois que je vois ça. J'ai vu une publicité du Chevrolet Silverado électrique.
Mm-hmm.
On s'entend, là, 2024, qu'on va envoyer ça sur le marché.
Plus tard,
il y a des annonces à la télé, puis c'est marqué à la fin, commandez le vôtre dès maintenant.
Exact.
Fait que là, ils disent 2 ans d'avance, ce serait peut-être une bonne idée de le commander tout de suite. Puis moi, j'ai des gens qui m'ont dit aussi que finalement, ben, le Cybertruck, il s'était sorti de la liste.
Ben, ça se peut. Parce que là, on a repoussé plusieurs fois.
Ben, écoute, on a commencé à prendre des commandes en novembre 2019. On s'entend que ça fait 2 ans et demi.
Ça aura pris 4 ans au moins avant que...
Puis là, ils commenceront pas en faire avant 2023. Fait qu'on a au moins 7-8 mois d'attente encore. Fait que, tu sais, 3 ans et demi plus tard, il va arriver quoi? Ben, soit que les gens vont avoir un Lightning, soit que les gens vont avoir commandé un autre modèle,
on va avoir besoin d'une camionnette, puis ça va changer la donne.
Ils vont avoir pris les retraites.
dans l'ensemble, là, pour le sondage, un peu plus de 50% des répondants disent qu'ils vont se prévaloir d'une ou l'autre de leur précommande. Donc, il y a vraiment un jeu.
Exact.
Il y a juste une petite nuance, c'est qu'à l'opposé, les gens n'ont pas fait la même chose du côté des voitures, étant donné que de ce côté-là, les acheteurs, semblent davantage attachés à une marque ou à un modèle, alors qu'une camionnette, c'est peut-être plus une camionnette.
Ouais,
ça, c'est la théorie.
Pas prête à le dire, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, là, moi, entre le EV6, le Ioniq, le ID4, j'ai mis mon nom partout, puis le premier qui va m'appeler m'a sauté dessus.
Puis inversement, les gens qui veulent un F-150, souvent, il y a une certaine loyauté.
Dans les camions, il y a plus de loyauté, effectivement.
Bref, il y a un engouement dans les véhicules électriques, on le sait, on le voit, mais il faut quand même pas trop aussi au nombre de précommandes, là, parce que clairement, c'est gonflé un peu.
Exact. Alors, moi, j'ai une nouvelle différente, j'ai lu ça cette semaine. Bon, évidemment, on le sait, les constructeurs automobiles ont quitté la Russie, là, plus personne qui est là. On parle de constructeurs étrangers, évidemment. En représailles à la guerre déclenchée en Ukraine, on aura compris, les pénuries ont obligé Lada. Parce que Lada, ça appartenait à Renault. Et on a racheté récemment à Renault la compagnie Lada, qui est redevenue une compagnie qui appartient maintenant à l'État russe.
Ah bon?
Et on a lancé une nouvelle variante. Écoute bien ça, là.
Est-ce que c'est Lada qui fait les chars d'assaut qui
ça serait peut-être une bonne idée, la guerre va se finir plus vite.
mais
on a sorti, en fait, une version de la Lada Granta, qui était la dernière Lada, là, la plus moderne. On parle pas des Lada carrés, les Denis qu'on avait ici, là, les espèces d'horreur. Mais on a sorti un modèle classique. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas de coussin gonflable, il n'y a pas de frein ABS, il n'y a pas d'air climatisé, c'est des fenêtres à manivelle. On vient de reculer de 25 ans.
Wow.
Pourquoi? On n'a pas les pièces. Okay. Le point à la ligne, la Russie n'est pas à part des autres. Et surtout que là, il y a des sanctions économiques.
Ah oui.
Fait que là, on travaille vraiment avec ce qu'on a. Et on vend ce modèle-là. Tout nu est un mot faible. Là. C'est vraiment, il n'y a rien là-dedans.
C'est le squelette.
C'est 761 000 roubles. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est 16 839 $ canadiens. Fait que c'est quand même pas donné là, pour une voiture qui a rien.
Mm-hmm.
C'est un petit moteur 4 cylindres, 1.6 litres de 90 chevaux, qui répond aux émissions polluantes de 1996.
Oh boy.
parce que c'est un modèle qui est à peu près de cette année-là. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Puis là, il y a même des rumeurs qui diraient qu'on va ramener le Niva. Le Niva, qui est un modèle qui a 45 ans. Évidemment, ça sent un peu la guerre froide, hein? À l'époque où on est isolé du côté de la Russie. Et évidemment, les usines sont là, des constructeurs étrangers, mais il n'y a pas l'expertise, il n'y a pas les pièces, il n'y a rien, tu fais quoi avec ça, là? C'est comme avoir un véhicule électrique qui n'a plus d'énergie dedans. T'as un bel angle de bateau, là.
Ça
sert absolument à rien.
Clair.
Alors, puis là, ceux qui ont des voitures étrangères, parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, la guerre a quelques mois, là, on commence à avoir des problèmes à trouver des pièces. Pièces qu'on peut trouver sont à un prix exorbitant. Il y a même des gens qui disent qu'on préfère pratiquement laisser la voiture à la maison parce que quelqu'un qui a un peu de travail à faire, ça coûte l'équivalent du prix de la voiture pour la réparer. Ça tient pas debout. Donc, on assiste un peu à un retour du banditisme là, pour tout ce qui concerne les pièces et les morceaux qui traînent. Mais ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des vraies répercussions du côté de la Russie. Puis tiens, ma dernière nouvelle, je vais faire ça en une minute. Ford rappelle près de 3 millions de véhicules pour un problème d'engrenage de transmission. En fait, il y a plusieurs modèles, le C-Max, Edge, Escape, qui ont des problèmes. En fait, quand on met le véhicule à park, l'engrenage tient pas. L'auto peut rouler tout seul.
Oh mon Dieu.
Ou changer de vitesse sans qu'on y touche. Alors, c'est un problème qui touche les modèles. En général, c'est pas récent, là, c'est 2013 à 2019. Là, je l'ai dit, Escape, C-Max, Fusion, je l'ai pas dit, Transit Connect, Edge. Donc, il y a 2 900 000 véhicules qui sont rappelés, Canada, États-Unis, Mexique surtout, mais ça va commencer bientôt.
Moi, j'ai eu ce problème-là avec un véhicule quand j'étais au Cégep.
OK.
Je traînais un 2 par 4, puis je glissais en dessous de la... Tu sais, le parc marchait pas sur la transmission.
Ben c'est ça. Là,
c'était pas la meilleure solution.
Ben non, puis c'est parce que si t'es moindrement en pente, là, ça peut être joyeux.
Tu mets 2 par 4 du bon bord.
Effectivement. Alors, on va à la pause et on revient après avec notre premier invité, Normand Mousseau.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
On a un sujet en or aujourd'hui pour vous.
Littéralement,
Oui.
En
oui,
or noir.
En or noir, effectivement. vous le savez, le prix de l'essence fait à peu près... c'est le sujet de conversation le plus populaire depuis quelques semaines. Et notre invité, lui, est un spécialiste de la chose. C'est Normand Mousseau. En fait, il est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Je l'ai dit comme faux.
C'est un bon titre en plus. Mais oui.
Salut Normand Mousseau, comment ça va?
Bien, bien, toi?
Bon, absolument. Merci d'être là, Normand. C'est gentil. Normand, évidemment, là, il y a toutes sortes de spéculations qui courent. Les gens disent, Goldman Sachs disait il y a à peu près une semaine qu'on, au prix où on attend le baril de pétrole qui pourrait grimper jusqu'à 160 $ le baril d'ici la fin de l'été, ça pourrait augmenter à peu près de 34 % le prix de l'essence qui nous amènerait chez nous autour de 3 $. Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on est un peu trop fort dans ce qu'on avance? On a déjà des prix qui dépassent les 7 $ le gallon aux États-Unis. Ta pensée là-dessus, Normand?
Ben, ma pensée, c'est que la demande en pétrole reste forte là, malgré les prix élevés. Mais on voit aussi une augmentation de la production de pétrole. Moi, okay. je doute un peu là, qu'on atteigne 160 $. Je pense que on va tourner un peu autour où on est maintenant, là, puis peut-être redescendre un peu au cours des prochains mois.
Bon, ça m'encourage. J'aime ça entendre ça. Là, évidemment, après m'abord, les gens ont un peu accusé la guerre en Ukraine d'être en partie responsable des prix qui ont grimpé, parce qu'on le sait, la Russie est un grand producteur de pétrole. Mais il semble que l'Ukraine n'ait pas grand-chose à voir avec ça. Là, c'est un problème de raffinage, paraît-il.
Oui, c'est ça. Et là, c'est la deuxième partie, c'est que même si les prix du pétrole redescendent, l'enjeu, c'est qu'on n'arrive pas à faire assez d'essence et de diesel pour répondre à la demande. Et
ouais.
Ça, il y a plusieurs... C'est déjà avant la guerre là, en Ukraine, c'était déjà présent, cette tension-là. Mais la Russie, c'est un gros exportateur de produits raffinés. Donc, évidemment, là, les embargos joue à la fois pour l'exportation, mais aussi la capacité d'importer des pièces et autres pour les raffineries.
OK.
Donc, ça a des impacts sur la production.
Mais pour ma gouverne personnelle, Normand Mousseau, il reste quoi de raffineurs au Canada? Est-ce qu'on en a suffisamment? Est-ce que ça vaudrait pas la peine pour une pétrolière de dire, OK, on peut-tu investir, mettre, parce qu'on le sait, là, une usine de raffinage, ça coûte très cher. Mais est-ce que ça vaudrait la peine pour pallier au manque et stabiliser le prix de l'essence?
Au niveau nord-américain, là, parce qu'on peut considérer ça, on est dans un marché intégré, là, pas mal.
Ouais.
Il manque à peu près 1 million de barils par jour d'essence, là, de raffinage, de capacité de raffinage.
Quand même.
C'est important.
Oui, c'est important, effectivement.
Pourquoi? Parce qu'on a fermé des raffineries. Bon, au Québec, simplement à Montréal, on avait beaucoup plus de raffineries là, qu'on a fermées. On avait 4, il en reste une maintenant. On a celle de Québec. Donc, au niveau du Québec, on est à peu près à égalité entre les capacités de raffinage et la demande en pétrole interne.
Okay.
On a des raffineries dans l'est du pays, là, à Irving, par exemple.
Ouais.
Puis on a des raffineries dans l'ouest. Il en reste un peu en Ontario. Donc, on en a. Mais le problème, c'est qu'on a resserré les normes d'émission des carburants. Donc, on a moins de soufre dans le carburant. Et avec ça, il y a eu des pressions pour fermer les raffineries les moins performantes, les plus vieilles, qui avaient de la difficulté à livrer les carburants au niveau. Et comme on voit toutes les règles qui disent d'ici 7-8 ans, on vendra plus d'auto qui sera pas électrique ou d'ici 10 ans, là, dépendamment des pays, ben, les compagnies hésitent, les raffineurs hésitent beaucoup à faire des investissements dans des nouvelles raffineries.
Ouais, parce que bon,
au point qu'il y en a aucun dans la planification en Amérique du Nord, là, par exemple.
OK, OK. Donc présentement, il y a personne qui se dit, parce qu'on parle de quoi là? Est-ce qu'on est dans les centaines de millions ou dans les milliards pour mettre une raffinerie sur pied?
C'est probablement les milliards, là. J'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est
une
surtout plusieurs années là, on va parler de 5 à 10 ans pour monter ça.
Oui, effectivement.
Faire approuver si ça pas d'ici en criant lapin. Là, fait que...
Non, effectivement. Et pour ce qui est des sables bitumineux, là, est-ce que les sables bitumineux ont un bel avenir? Parce que là, on s'entend qu'en ce moment, eux autres, là, avec le prix du baril à 120 $, les sables bitumineux là, sont morts de rire, parce que là, il est profitable, le pétrole, parce qu'il ouais, coûte cher dans l'Ouest.
Oui, mais il n'est pas vendu à ce prix-là non plus, là, parce qu'il est vendu avec 20-25 $ de moins. Là, il y a une grande marge importante parce que c'est un pétrole plus lourd à raffiner.
Exact.
Et dans un contexte aussi où les normes sont plus serrées, ben on aime mieux à commencer avec un pétrole qui est plus propre déjà, là, qui a moins de soufre et autres.
OK.
Les sables bitumineux, l'enjeu, on l'a vu là, récemment, c'est Total qui a déplacé ses investissements vers Baie du Nord, là, en Terre-Neuve. Parce que les sables bitumineux, dans un contexte où le Canada s'est engagé à réduire ses émissions, il va falloir qu'ils réduisent de manière importante les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de pétrole. Et il va falloir donc faire du captage et séquestration qui est très coûteux.
Ouais.
Et les compagnies pétrolières disent, est-ce qu'on veut vraiment investir des milliards avec les incertitudes de ces technologies-là, même si le gouvernement, c'est-à-dire nous allons ramasser l'essentiel de la facture? Alors, on voit que les compagnies internationales ont tendance à quitter les sables bitumineux pour aller vers du pétrole plus facile d'exploitation.
Ouais, qui va coûter moins cher. Fait que si je comprends bien, Normand Mousseau, on est un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire qu'on doit encore, pour un certain temps, produire et vivre avec le pétrole parce que notre transition est en chemin, mais n'est pas complétée. Puis de l'autre côté, on veut pas investir parce qu'on se dit, ces investissements-là d'une couple d'années vont être caduques puis serviront peu à rien parce qu'on va être rendu dans un autre mode de transport.
Voilà. Puis l'essence, on le voit assez clairement, là, si les pays ont mis en place des lois déjà, là. Fait qu'on peut vraiment prévoir que d'ici 10-15 ans, il va y avoir une demande importante dans les pays développés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de raffinerie construite dans des pays ou dont l'économie est en voie de développement, là. Mais dans les pays développés, je pense que c'est pas mal fini.
Ben, je vais aller un petit peu plus loin avec ça, parce que les investissements, quand on parle de centaines de millions de dollars pour construire des usines, les pétrolières pensent plus à la pétrochimie, parce qu'ils voient le virage, ils disent, bon, on va aller dans la production de plastique, de choses comme ça, de produits dérivés du pétrole qui ne sont pas des carburants. Et c'est là où, justement, c'est plus avantageux pour ces pétrolières-là que d'ouvrir une nouvelle raffinerie, d'investir dans des trucs qui ne seront pas nécessairement strictement au niveau carburant. Il y a quelqu'un qui me disait au début de l'année, puis c'est finalement ça s'aligne un peu à ce qui se passe, c'est que le prix de l'essence est vraiment plus lié au fait que l'industrie aérienne consomme beaucoup plus maintenant, en ce moment, de pétrole qu'il y a 6 mois. Est-ce que c'est vérifiable, ça, comme information?
Oui, mais l'industrie, c'est important, mais c'est pas... Le plus important, c'est la demande routière qui est très forte. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai, l'industrie... de l'aviation, c'est quelques pourcentages de la demande totale en carburant.
L'autre question je me posais, Normand Mousseau, est-ce qu'il y a une marge? Parce que là, on le sait, tu l'as mentionné au début de l'entrevue, on produit plus de pétrole. Est-ce que les pays membres de l'OPEP et, bon, ceux qui y sont associés ont une bonne marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut, demain matin, produire 15-20% de plus qu'on produit en ce moment pour essayer de garder le prix à un niveau raisonnable?
Non, je pense pas. On a vu l'élasticité ces dernières années, on l'a vu venir beaucoup des États-Unis. Mais en fait, on se rappelle peut-être juste avant la pandémie, les pays de l'OPEP avaient fait s'effondrer le prix du pétrole pour tuer l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis.
C'est vrai.
Cette industrie-là a repris, elle n'est pas encore aussi forte, mais c'est là où on a un peu de marge, là, parce que ce sont des puits, il y a beaucoup de petits acteurs qui viennent. En Arabie Saoudite, on tire pas mal au maximum. Il y a des pays, évidemment, comme l'Iran, Venezuela, qui ont des problèmes structurels, là, qui font qu'ils vont pas chercher tout le pétrole possible parce que leurs infrastructures ont des problèmes.
Exact. Donc, ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, c'est que il va falloir s'habituer à un pétrole qui est à peu près au prix qu'on connaît, puis on devrait plus revenir à des 1,15 $, 1,20 $. Là, on verra plus ça, ça n'existe plus, ça.
Encore une fois, c'est l'essence, hein? Les raffineurs, là, ont doublé leur marge ces derniers mois. On est passé d'à peu près 25 cents le litre à près de 60 cents le litre. Hein?
Quand même, ouais.
Fait que on a juste l'œil sur le prix du pétrole, là, mais il y a 30 cents le litre là, qui est lié à une augmentation très importante de la marge des raffineurs.
Et selon toi, ça serait quoi un prix juste pour le carburant en ce moment? On pose la question.
Tout le monde a une excellente réponse à cette question-là.
Non, mais un prix juste pour un marché comme ça, c'est ce que les gens sont prêts à payer d'une certaine façon.
Oui.
Alors, les raffineurs, la demande est forte en essence, ben, ils peuvent charger ce qu'ils veulent, là.
Ouais. Mais on s'entend, là, qu'il y a des gens qui s'étranglent en ce moment, là. Moi, je connais.
Absolument.
Moi, je connais des gens. Écoute, puis je suis pas là pour me plaindre, mais tu sais, nous, on essaye une, deux voitures par semaine. Moi, là, ça me coûte 250$ par semaine d'essence depuis déjà un bout de temps. Ça, c'est cher, là. Je suis à 1000$ par mois.
Il faut que tu essaies des voitures électriques à la place.
C'est ce que je fais. La semaine passée, j'avais une BMW iX, alors ça m'a rien coûté. Ça a fait du bien au portefeuille. Mais honnêtement, j'ai diminué la longueur de mes trajets. Je fais plus attention où je vais parce que on vidait un réservoir sans trop se poser la question parce que, bon, c'est notre métier. Faut l'essayer. Mais là, j'essaie de faire la même chose dans un demi-réservoir. Ouais.
Normal, je sais pas si vous pouvez... Est-ce que les taxes et tout ça, tu sais, tout le monde dit, il faudrait baisser les taxes. Est-ce que ce serait la solution?
Non, parce que les taxes, ces jours-ci, c'est à peu près l'équivalent du raffinage, hein, 60 cents par litre. Que si on réduit les taxes, il va falloir récupérer l'argent ailleurs parce que l'État a besoin de fonctionner. Pour moi, la solution dans un contexte comme ça, c'est de dire, on n'envoie pas des chèques à tout le monde, mais on va aider les gens qui sont les plus touchés. C'est pas juste ceux qui ont des voitures, c'est ceux qui consomment, qui ont de l'alimentation.
En fait, c'est ça.
C'est pas juste à la pompe. Hein,
ben non, tu sais, le cocon qu'on paye 3$ à l'épicerie, là, c'est parce qu'il vient de Californie, il est venu en camion, puis il y a une surcharge au niveau de l'essence. Là, tu sais, faut jamais oublier ça dans l'équation. Puis c'est vrai pour tout ce qui est transporté par camion. Là, les charges augmentent partout. Puis tu sais, je me dis à un moment donné, là, personne ne le dit officiellement, mais moi je pense qu'on est en pleine récession. Là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est bon, oui, pouvez-vous en prendre moins, mais tu sais, est-ce qu'on va falloir commencer à penser à vivre avec un litre d'essence à 2,25 là, de façon permanente?
Je pense qu'on s'en va. Ça va redescendre quand on aura moins besoin. Donc,
naturellement.
La permanence est dure là-dedans, mais il reste que c'est des choix. Les Québécois, les Canadiens sont achetés des véhicules plus gros, plus lourds, qui consomment plus.
Ah, et puis là, ils payent pas.
La tendance est là. T'sais, à un moment donné, c'est des choix aussi. Là.
C'est ça. Exactement. Les gens payent pas. Puis, je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Ben, écoute, Normand Mousseau, merci beaucoup pour ta présence. Ça a été très apprécié. Je pense qu'on s'est éclairé et on va aller pleurer dans notre coin tranquille tout seul.
Oui, ça
faire
mal longtemps. Oui.
Alors, merci beaucoup. Alors, c'était Normand Mousseau qui est professeur de physique qui s'occupe aussi de l'Institut Trottier de l'Université de Montréal. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Troisième log de l'émission, on vous parle d'abord comment nous écouter.
Oui.
La façon la plus simple, on s'abonne. Facile. Ça tient la route. Vous allez sur C23 ou votre plateforme préférée, Google, Apple, Spotify, etc. Alors, c'est pratique pour l'été.
Pour rattraper
la saison, ce que vous avez manqué. Et on l'a dit en début d'émission, on va avoir quelques spéciales cet été en balado. Donc, raison de plus de vous abonner. Ça sera exclusif aux gens qui nous écoutent. Version balado.
Oui.
Et évidemment, vous pouvez aller sur annuelauto.ca. On fait la mise à jour des balados chaque semaine. Ou sur le site d'une des chaînes de Cogeco, comme ici, 98.5 à Montréal, dans section balado, cliquez et vous arrivez à l'émission. C'est aussi simple que ça.
Voilà.
Chronique Écolo Auto, on a de la suite d'un idée cette semaine. On vous parle des camionnettes les plus économiques en carburant en 2022.
Oh.
Qui dit camionnette ne dit pas nécessairement économie, quand on pense à ça, là. Mais il y a quand même certains choix qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Évidemment, il y a des choix 100% électriques. Le Rivian, qui s'en vient à petite quantité.
Faut-il le recevoir, oui, c'est ça.
Faut le recevoir. Ouais. Le Hummer qui s'en vient, bon, qui est gigantesque, là, on s'entend.
Il est pas économique au sens économique du terme.
Il est pas économique parce qu'il coûte 125 000 $, mais il prend pas de carburant. Le F-150 Lightning va être un autre modèle aussi qui s'en vient. Mais il existe aussi des moteurs éco-diesel, comme dans la RAM, qui fait du 8 à 8 litres et demi au 100 sur l'autoroute. Il y a également des moteurs moteur hybride, Toyota Tundra hybride, est intéressant, même si c'est un 6 cylindres qui consomme quand même du 13-14, mais c'est moins pire que les gros V8.
On a eu du 22 dans ce Tundra.
On a eu du 22, du 23. Ouais. Et un qui est très populaire de ce temps-là, c'est le Ford Maverick hybride.
J'allais dire,
qui est en fait le plus économique des moteurs à essence en ce moment là sur la route. En fait, il est tellement populaire qu'aux États-Unis, on a arrêté de prendre des commandes, on fournit pas. Là.
Ah
alors,
bon?
Il y a eu beaucoup de demandes pour ça. Est-ce qu'on devrait aller du côté d'un Santa Cruz ou d'un Ridgeline? Ça consomme à peu près du 11 litres au 100 pour le Ridgeline, puis du 10 à 11 litres au 100 pour le Santa Cruz. Fait que, tu sais, il y a quand même des solutions pour s'en sortir sans payer trop cher, mais dites-vous que généralement, un camion et l'essence, ça fait bon ménage, mais pas toujours dans le bon sens.
Oui, non, exactement. Oui. Il s'aime beaucoup.
Exact. Alors, la chronique on va être évidemment sur annuelauto.ca d'ici les prochains 24 heures. Alain, ton essai outil de cette semaine, c'est quoi?
Ben, écoute, j'étais en mode sport compact. Donc, j'ai dit, ben regarde, allons-y avec la Volkswagen GTI, qui est, on s'entend, une voiture iconique là, qui se passe généralement de présentation.
Ouais, puis il faut le dire, là, cette année, il n'y a plus de Golf régulière. Il reste la GTI puis la R. C'est les deux seuls modèles de Golf qui restent sur le marché pour 2022.
Exact.
Et ça va continuer en 2023.
Et là, on peut présumer que la génération actuelle, qui est quand même toute fraîche, là, pourrait en fait être la dernière GTI telle que qu'on la connaît...
En version essence.
En version essence, exactement. Ouais. Donc, ça devrait être une excellente occasion pour les indécrottables aficionados des petites sportives. Ça, c'est une belle phrase.
Oui, je vois que tu as travaillé fort pour l'écrire.
Ça, clairement, je l'ai pris en note parce que tu sors pas ça comme ça de but en blanc. Bref, pour les fans des sports compacts, comme on dit dans le temps, et de la marque allemande Volkswagen aussi en particulier, de mettre la main au volant de ce qui sera probablement en plus un modèle qui va passer à l'histoire avec un grand H, parce qu'on va s'en rappeler comme de la dernière de GTI. Ce qui est bien avec la GTI 2022, c'est aussi qu'elle coûte pas mal moins cher qu'une Golf R, justement, parce que c'est l'autre option. Son prix de base est à 35 400 $ là, quand on inclut tous les frais obligatoires qui ne sont pas mentionnés sur le site de Volkswagen Canada, en passant, ce qui est un petit détail.
Ouais, et t'amènes un bon point. Faut faire attention à la version qu'on choisit.
Ah oui,
si vous prenez une version autobahn, la version au bouchon, il y a comme 4-5 000 $ de différence avec une R. Moi, je me dis, rendu là, allez chercher une R. Mais si vous voulez une GTI, tenez-vous-en au modèle de base, d'ailleurs, qui est fort intéressant. Moi, dans ce modèle-là, j'aime mieux le tissu que le cuir.
Mm-hmm.
Puis j'aime mieux le modèle d'entrée de gamme. Vous faites aucun sacrifice au niveau moteur, mais vous avez... Oui, un peu moins d'équipement, mais je pense que c'est ce modèle-là qui reflète le mieux ce qu'est la GTI.
Tu touches au cœur du, je vais pas dire du problème, mais de la situation. Parce qu'effectivement, il y a la version de base. La version autobahn, c'est la version intermédiaire qui coûte à peu près 39 000. Et il y a une version performance
à
44 000, qui est vraiment celle-là qui, à mon avis, est complètement inutile et superflue. Écoute, ça inclut des gadgets là qui ne changent absolument rien à la façon dont le véhicule se comporte. Puis, je veux dire, en même temps, une GTI, c'est pas une voiture qui devrait être hyper technologique. Là, c'est une voiture qui se court.
C'est une voiture de puriste. Alors,
exactement,
c'est ce que j'aime de ce véhicule-là dans sa forme la plus simple. C'est celle qui est la plus proche de ce qu'on aime d'une GTI, je pense.
Exactement. Donc, d'entrée de jeu, on va le dire aussi, faut oublier tout de suite la version à boîte automatique DSG à 7 rapports, qui est pourtant une super boîte, mais dans la GTI, mon Dieu, qu'elle est affreuse. Et c'est dommage, en fait, parce que ça devrait, au contraire, bien faire le travail, mais elle trouve jamais le bon moment pour changer ses rapports. Elle sous-exploite sans arrêt la courbe du couple du 4 cylindres turbo qui anime le véhicule, évidemment. Et c'est extrêmement dommage, car le 4 cylindres, justement, là, il génère une très belle puissance, hein, à 241 chevaux. Donc, allons-y avec la boîte manuelle à 6 rapports, qui c'est vraiment la job. Puis de toute façon,
c'est la boîte à avoir.
Ça fait partie
absolument
de l'image de ce véhicule.
Oui. Si vous voulez une icône, là, c'est exactement ce modèle-là qu'il faut aller chercher.
En plus de tout ça, dans les versions plus équipées, on ajoute un différentiel à glissement limité, là, il y a là partout, et des réglages qui permettent de personnaliser le comportement de la suspension, de la direction et de quelques autres composants. On a 4 modes, là, tu sais, éco, confort, sport, custom, mais... Là encore, on s'en serait passé. La GTI devrait avoir juste un mode de conduite, mode GTI.
Ouais, ça
serait réglé. Au volant, de toute façon, ce qu'on remarque en premier, et ça, c'est une autre partie. Vraiment, je n'étais pas content cette semaine-là. C'est pas la personnalité sportive du véhicule. C'est la première chose qu'on fait, c'est évidemment de sacrer littéralement là, contre le système multimédia du véhicule, qui est un écran tactile.
Ça j'avoue qu'on s'est trompé là-dessus.
On a vraiment, là, ça scrape tout le fun d'avoir une GTI aussi. C'est un écran tactile qui est juste au-dessus d'une espèce de trois petites cette surface très lisse et très étroite qui sont elles aussi tactiles. Et c'est alors, là qu'on change la température des deux zones de climatisation, le
volume
de musique.
Moses de, pour pas dire un autre mot, les Moses de touche affleurante, là, pour le volume. Pour, écoute, là, tu veux monter le volume, tu changes la température. Tu veux baisser la température, tu changes de poste. Là, tu dis à un moment donné, là. Alors, c'est fatigant.
On est généralement en train de faire trois affaires en même temps, puis on veut en faire juste une. Puis en plus, il faut retenir le volant et regarder la route, donc c'est impossible à faire. Et on s'entend, les menus intégrés sont vraiment détestables. Changer régler la climatisation, ça prend pratiquement un diplôme de l'université de Volkswagen, là. Ça n'a aucun bon sens. Bref, on est loin des radios, et là, je fais un clin d'œil au passé, des radios Blaupunkt qui étaient de l'origine des premières GTI.
Ah, c'est vrai.
Et même des radios subséquentes chez Volkswagen qui présentaient même des touches d'égalisateur, des touches, des petites roulettes, là, qu'on fait changer les basses et les hautes fréquences. C'était vraiment le bon vieux temps.
En fait, Volkswagen a raté une belle occasion de faire une mise à niveau de tout ça, mais en gardant en tête ce qu'était l'original. C'est-à-dire
exactement.
Qu'il y a moyen de garder des boutons, des commandes, des roulettes, des manettes,
oui.
Quelque chose qui est tactile, qu'on peut toucher, qu'on peut bouger, qu'on peut tourner. Mais là, avec ça, on a comme mis l'encadrement qu'on aime dans une espèce d'écran qu'on n'aime pas, finalement.
Exactement. Puis, côté conduite, ben, j'ai été un peu déçu aussi. Là. Évidemment, c'est une voiture qui se conduit extrêmement bien, on s'entend, mais elle est grosse, elle est lourde. Ça va ensemble. Grosse et lourde. L'empiètement, évidemment, est long. La voie est large. Donc, c'est évidemment une tenue de route impeccable. Mais on n'est pas dans une compacte très nerveuse, comme on se rappelle. On est vraiment dans une, ce que j'appelle une intermédiaire en dimanche. C'est une GTI, c'est plus une Golf. C'est rendu vraiment ce qui serait. Écoute, c'est trop gros, tout simplement. Et pour ça, à cause de ça, pour moi, vraiment, c'est moins une GTI maintenant que c'était. Ce qui, ben, tu l'as dit, c'est une occasion ratée par Volkswagen d'offrir un modèle là, qui aurait une sortie là, du catalogue digne de ce nom. Évidemment, bon, pour les puristes, il y a la Golf R. Mais pour ce qui serait, à mon avis, l'amateur nord-américain moyen qui a grandi dans l'univers Volkswagen, c'est surtout la GTI qui a marqué les esprits. Et là, on finit un peu sur une mauvaise note.
Ben, en fait, la GTI, dans sa version... Moi, je recommande encore la GTI dans sa version de base,
oui, ben exact,
en boîte
voilà.
manuelle. Ça reste une voiture extrêmement intéressante à conduire. Il vous faudra quelques semaines pour vous habituer aux aléas de tout l'univers tactile de ce modèle-là. Mais ça demande une voiture très intéressante et qui poursuit bien la tradition du modèle. À ce chapitre-là, pas de problème.
L'aspect mécanique de l'affaire m'intéresse beaucoup.
Ouais.
Boîte manuelle, moteur turbo, 4 cylindres, parfait. Toute l'espèce de flafla au-dessus est
ben,
pas
c'est
nécessaire.
Ça. Exactement. Je pense qu'on a un petit peu raté le but qu'on visait avec mm-hmm. ça. Alors, merci Alain. Moi, de mon côté, je suis allé un peu ailleurs. J'étais chez BMW. J'ai eu l'occasion d'essayer le modèle iX 2022. En fait, c'est le premier VUS électrique du constructeur. Et toute une machine. Là.
Ben, moi, c'est le premier d'une série, en plus.
C'est le premier d'une série. Bon, mm-hmm. moi, j'avais le modèle 50, parce qu'il y a un modèle 60. Il y a des endroits où il y a même un modèle 40. La puissance est excellente. Là. J'ai l'équivalent de 516 chevaux là-dedans. C'est un 4 roues motrices, évidemment. 0-100, écoute, le 0-100 est homérique. C'est du 4,4 secondes, mais contrairement à d'autres modèles électriques que j'ai eus, on pouvait continuer. Là, on sent, une fois qu'on a atteint une certaine vitesse, qu'on plafonne. Là.
Ah oui.
Qu'il n'y a plus de poussée. Là. Bon, je ne suis pas allé très vite. On peut pas chez nous.
Mais raisonnable d'une certaine façon.
J'ai fait
aussi.
Un 130-140 là sur une petite route pour voir un peu. Mais déjà à 100, on sent que ça plafonne un petit peu. Cela dit... Le silence est extraordinaire. La suspension est extrêmement bien faite. Ça absorbe, écoute, là, même les trous sur la route, ça fait juste un petit pouf.
Ah oui.
C'est tout. Suspension, évidemment, hydraulique, ajustable. Le plancher plat du modèle est intéressant. Il n'y a pas de bosse centrale. Donc, l'aménagement intérieur est extrêmement bien fait. C'est spacieux. Matériau spécial. C'est du cuir, une espèce de cuir brun. Tan,
okay.
Puis on a mis partout là, tableau de bord contre dans le bas des portes, siège.
Côté tout... rétro ou
ben en fait petit côté spécial parce que tout le cuir est de la même couleur, fait que t'as l'impression d'être
ah oui.
dans un univers de cuir.
Dans un gros divan.
Donc on peut avoir des couleurs deux tons en option. Moi, j'avais vu un modèle, c'est pas lui que j'avais, mais c'est en noir et bleu. Là.
Okay.
L'intérieur, ça aussi, ça faisait un peu spécial. Et c'est probablement le véhicule le plus technologique de BMW à ce jour. Il y a superposition de réalité augmentée pour le système de navigation. Il y a un toit ouvrant électrochromatique là, qui va changer avec la couleur, qui passe de la transparence à l'opacité. Tu appuies sur un bouton dans l'auto, puis boum, tout d'un coup, on dirait que c'est fermé, mais il est pas fermé. Là. Le toit, il est là, il est fixe. Il y a un système de stationnement à distance qui est capable de mémoriser la façon d'entrer et de sortir des places de stationnement. Donc, si vous avez au bureau, vous passez à côté d'un auto entre une colonne, puis il va le mémoriser, puis il va le faire à chaque fois. Bon, dans la mesure où vous stationnez toujours à la même place.
Ouais, faut pas. C'est ça. Éviter les surprises, quand même.
Voilà. Puis là, il y a le fameux iDrive 8. Ça, c'est la plus récente version du système qui présente une nouvelle interface d'utilisateur. Bon, on a encore, là, moi, ce que j'appelle la gestuelle, là, tu tournes la main pour augmenter le volume de la radio, t'as,
regardez ça, ouais.
Ouais, je parlais aux passagers, puis je parlais, puis maintenant, la radio a monté. C'est juste moi qui ai fait le geste involontairement. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une interface qui est facile à utiliser. Il y a évidemment des profils d'utilisateurs qui sont personnalisés. Donc, si toi, Alain, tu as le profil numéro 1, tu vas avoir ta station de radio préférée et mémorisée. Le siège, les miroirs vont se placer quand tu vas rentrer. Donc, tout se place. Puis, il y a un profil comme ça pour plusieurs utilisateurs. Vous me direz qu'à 110 000 $ on s'attend un peu à ça, là, c'est clair. Mais et l'autonomie, parlons-en, 560 km d'autonomie. Écoute, je me suis promené. Là, le syndrome de la pile morte a disparu. Là. Si quelqu'un a encore des problèmes d'anxiété avec des batteries à 560 km, appelez votre psychologue parce que là, ça commence. C'est autant qu'un plein d'essence.
Ben, c'est bon pour plusieurs jours.
Moi, je l'ai pris une journée la semaine passée. J'avais un rendez-vous dans la région. Je suis allé dans les Laurentides. Après ça, je suis allé à Hudson dans la même journée. Je suis revenu chez nous le soir. Puis il me restait encore 180 km. Alors, j'ai zéro problème. J'ai chargé ça toute la semaine. Ça a extrêmement bien été. Donc, de ce côté-là, numéro un, on parlait de pneus tantôt, il y a du 22 pouces là-dessus.
Oh.
Donc, attachez-vous quand vous changez les pneus sur cette auto-là. Mais il y a un très bon niveau d'adhérence. Les freins sont extrêmement bons aussi. Ça freine bien, ça accélère bien. Le comportement est bon, c'est évidemment extrêmement silencieux et c'est bien fait, c'est au niveau de la façon d'entrer, tout ça, les sièges se baissent. Donc, vous avez, il y a deux rangées, mais les deuxièmes rangées se baissent par des boutons dans le coffre, c'est automatique. Pouf, ça se rabat d'un coup. Donc, c'est un modèle, je pense, qui va réussir parce que il s'adresse à un marché. Puis la beauté, c'est que les gens, chez BMW, c'est probablement l'avantage des marques de luxe, parce que les marques de luxe, les clients payent déjà cher.
Ils ont plus de facilité à avoir des véhicules
chers. En termes de format, là, ça, c'est un peu plus grand qu'un BMW X5. Puis c'est pas tout à fait un X7. Là. T'sais, moi, je le placerais entre les deux. Et c'est 110 000 $. C'est le prix que vous allez payer pour un X5 bien équipé. Alors, pour les gens qui sont déjà à essence, qui disent « OK, pour le même prix, je vais aller me promener dans l'électrique », t'as 560 km d'autonomie, donc y a pas de perte à ce chapitre-là. T'as un véhicule qui, tout d'un coup, ne prend plus d'essence. Puis évidemment, système Bowers & Wilkins dans l'auto de première classe, Apple CarPlay sans fil. Il y avait là, tu sais, toutes les commodités modernes, extrêmement bien faites. Beaucoup de rangement à l'intérieur. Donc, franchement, y a pas grand-chose à redire. Et la performance est excellente. Donc, on a un véhicule qui va ramener les gens qui n'ont peut-être pas pensé à l'électrique, qui vont aller dans ça parce qu'on reste dans un format de VUS et ça va beaucoup plaire du côté des clients de BMW.
Ben, les gens qui sont des clients fidèles à BMW.
Voilà, puis tu le dis, là, on commence une série de véhicules qui vont être des VUS chez BMW. Et si c'est aussi bien fait que le iX, Il n'y a aucun doute que ça va fonctionner et on va aller chercher une large clientèle avec ça. Alors nous, c'était tout pour cette semaine. C'était notre dernière émission de l'été à la radio, donc on vous remercie d'avoir été là. On se souhaite de revenir à l'automne. Bon été à tout le monde. Et on va nous vous revenir en balado. Alors profitez-en, ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous au courant de l'été. Bon été à Alain. Merci à Claude Hébert qui était là une partie de l'année. Alors on vous donne rendez-vous cet automne. Salut!